Chers professeurs, mesdames, messieurs, chers participants, chers auditeurs, c'est à la fois un honneur de m'exprimer dans le cadre de ce colloque organisé par le Collège de France et un grand plaisir. Il n'est pas courant qu'un ministre s'exprime au sein de cette instance de réflexion et d'analyse, mais je trouve important et particulièrement intéressant de montrer combien le fruit de votre travail scientifique peut nourrir une action politique concrète. J'en remercie le professeur Thomas Romer et le professeur Pierre-Michel Menger. Le thème des travaux m'intéresse tout particulièrement et je peux vous dire, pour travailler activement ces sujets, que ce thème est aussi difficile qu'il est passionnant. Les questions liées à la définition et aux modalités de rémunération du travail des artistes sont particulièrement délicates et font l'objet, depuis 2 ans, d'une attention particulière du gouvernement. Cette attention s'est concrétisée par la mise en œuvre d'un plan en faveur des auteurs, dont j'ai annoncé les 15 principales mesures en mars dernier. Comment définir le travail d'un artiste ? L'exercice est difficile, tant les situations entre les créateurs diffèrent et tant la nature juridique, économique et sociologique de leur travail est difficile à saisir. La création d'une œuvre relève d'une conception expressive du travail qui repose sur la manifestation de la personnalité de l'auteur. C'est la condition sine qua non de sa protection par le Code de la propriété intellectuelle. Le travail de création s'appuie ainsi sur un phénomène d'attribution réciproque. C'est l'auteur qui fait l'œuvre et c'est l'œuvre qui fait l'auteur. Je ne peux m'empêcher ici de faire référence, dans cette enceinte, à la position de Michel Foucault qui voyait en l'auteur une « fonction » dont l'objet était de faire sortir l'œuvre de l'anonymat garantissant sa singularité et sa visibilité sociale par un mécanisme d'appropriation. C'est ce mécanisme d'appropriation qui fonde le droit d'auteur, considéré comme la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés, depuis le discours du député Le Chapelier à l'Assemblée constituante. Héritier d'une longue controverse philosophique et juridique sur l'équilibre entre un large accès aux œuvres de l'esprit et une juste rétribution de l'auteur, le droit d'auteur assure au créateur une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son œuvre et, à travers un droit moral inaliénable, le respect de l'intégrité de celle-ci. Cette double nature permet aux auteurs de se constituer un capital économique et réputationnel qui garantit à long terme leur indépendance et leur liberté de création. À ce titre, l'adoption en 2019 de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins et sa transposition en France par 2 ordonnances, dont la première a été présentée en Conseil des ministres la semaine dernière, constitue autant de nouvelles étapes dans la reconnaissance de ce droit. En outre, la France a fait le choix, depuis les années 1960 pour les peintres, les sculpteurs et les graveurs, et depuis 1975 pour l'ensemble des artistes-auteurs, de reconnaître leurs besoins de protection sociale. Ils peuvent ainsi, grâce à une fiction juridique, accéder au régime général de la sécurité sociale. Il s'agit d'une double assimilation, protectrice pour les créateurs, l'assimilation des artistes-auteurs par nature indépendants à des salariés, l'assimilation des diffuseurs de leurs œuvres à des employeurs, ce qu'ils ne sont juridiquement pas. Ce mécanisme permet aux artistes-auteurs de s'acquitter d'un taux de cotisation identique à celui des salariés et de leur ouvrir les mêmes droits, notamment en matière de risque maladie et de congé parental. Mais pousser plus loin cette assimilation et appliquer aux artistes-auteurs des règles d'encadrement du travail aujourd'hui applicables aux salariés comporte plusieurs risques. Celui d'affaiblir l'indépendance de l'auteur en reconnaissant un rapport de subordination entre l'auteur et celui qui exploite son œuvre. celui de réduire en conséquence la diversité de la création par la standardisation des œuvres, l'auteur devenant un simple exécutant au service de son producteur, de son éditeur ou de son diffuseur. Ce cadre posé, l'action de l'État doit prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Je souhaiterais plus particulièrement en évoquer deux. En premier lieu, les revenus des auteurs ne sont plus exclusivement issus des droits d'auteur liés à l'exploitation directe de l'œuvre. De nombreuses publications, dont le rapport remis par Bruno Racine en janvier 2020, documente la diversification des revenus des auteurs comme réponse à la fragilisation de leur situation. En effet, face à une diminution progressive de leurs revenus moyens, les auteurs diversifient de plus en plus leur activité. Cette diversification s'appuie notamment sur le développement des actions d'éducation artistique et culturelle qui permettent de valoriser la place de l'auteur dans la cité. C'est pourquoi il était nécessaire que l'État prenne en compte cette variété grandissante des revenus artistiques. C'est tout l'objet du décret d'août 2020 qui élargit le périmètre des revenus entrant dans le régime. Dorénavant, les revenus tirés de la lecture publique de l'œuvre, de la présentation du processus de création lors de rencontres publiques et débats, ou encore l'attribution d'une bourse sont inclus dans le champ des revenus artistiques. En second lieu, comme dans tous les secteurs de l'économie, le déploiement des technologies numériques bouleverse les modes de création et de diffusion des œuvres. Dans le secteur de la création, le modèle économique de certaines plateformes numériques repose sur une triple promesse. D'une part, la promesse de créer un lien direct entre l'auteur et son auditoire, sans passer par un intermédiaire, qu'il s'agisse par exemple d'un producteur ou d'un éditeur. D'autre part, la promesse d'une monétisation directe de ce lien en garantissant à l'auteur la quasi-intégralité des revenus issus des abonnements. Enfin, la promesse d'une liberté totale pour l'auteur. Ces nouvelles plateformes, à l'instar de Patreon ou Substack dans le domaine de l'écrit, peuvent attirer des auteurs qui cherchent à se libérer de contraintes perçues comme trop importantes ou qui cherchent à échapper à une relation non satisfaisante avec leurs éditeurs. Pourtant, passé l'engouement initial, un certain nombre d'auteurs ont déjà quitté ces plateformes après avoir fait le constat que leur popularité, et donc leurs revenus, n'étaient pas mieux assurés que dans des modèles de diffusion plus classiques. Les auteurs qui semblent tirer leur épingle du jeu sur ces plateformes sont en réalité bien souvent ceux qui bénéficiaient déjà d'une reconnaissance et d'une communauté de lecteurs. Quoi qu'il en soit, l'impact de ces nouveaux modèles de diffusion sur les pratiques des auteurs et leur rémunération est encore difficile à évaluer. Et un travail d'analyse scientifique sera nécessaire pour définir une réponse adaptée. J'ai confié l'une des premières étapes de ce travail à Pierre Cirinelli, qui accompagnera les négociations sur le contrat d'édition. Ces négociations permettront de rééquilibrer les relations contractuelles existantes entre les auteurs et leurs éditeurs et auront notamment pour objectif de mieux prendre en compte les développements numériques et d'accentuer la transparence des relations avec les éditeurs. C'est l'une des ambitions du plan d'action en faveur des auteurs présenté en mars dernier par le gouvernement. Cet ensemble de mesures est le fruit d'un équilibre entre l'amélioration de la protection sociale des auteurs, la préservation de leur indépendance et la recherche d'un meilleur rapport de force entre les auteurs et les exploitants de leurs œuvres. Sur l'ensemble de ces sujets, le gouvernement reste attentif aux travaux scientifiques réalisés, à l'image des riches échanges d'aujourd'hui qui permettent d'analyser des mutations toujours plus rapides. le ministère de la Culture ne cessera d'accompagner les artistes, dont le travail exprime directement leur vision du monde et nous aide à construire la nôtre.